François-Xavier de Calonne. Juin 1992, 29 juin 2002, cela fait aujourd'hui 30 ans, l'assassinat du président Mohamed Boudiaf, un assassinat qui a provoqué un véritable choc en Algérie. Regarde votre édition sur cette page sombre de l'histoire de ce pays avec le journaliste et écrivain Adlène Mehdi. C'est arrivé à l'aube, un Palestinien a été tué lors d'une opération de l'armée israélienne à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Les députés ont élu leur présidente hier soir. Yael Braun-Pivet devient la première femme présidente de l'Assemblée nationale. Ce sera après-demain vendredi, la chorégraphe Lamia Safieddine proposera une nouvelle édition d'Instant de femmes au théâtre de Marly-le-Roi dans les Yvelines. Nous l'écouterons. C'était il y a 30 ans, le 29 juin 1992, l'assassinat du président du Haut Comité d'État algérien, Mohamed Boudiaf, un assassinat à Annaba, dans l'est de l'Algérie, 6 mois après sa désignation à la tête de l'État. Il a été tué alors qu'il prononçait un discours. Le journaliste et écrivain algérien Adlène Mehdi revient sur le contexte sécuritaire et politique de l'époque en Algérie. Adlène Mehdi.
Le contexte sécuritaire et politique de l'époque, c'est que nous sommes en janvier 1992, les autorités avaient décidé de suspendre le cours des élections législatives, ça veut dire qu'ils ont annulé le deuxième tour des législatives, première législative pluraliste, qui menaçait de placer le Front islamique du salut à la tête du gouvernement, c'est-à-dire qu'il allait avoir la majorité parlementaire et donc le gouvernement. Et donc les autorités civiles et surtout militaires ont décidé de... Certains appellent ça un coup d'État, d'autres appellent ça une sauvegarde de la République, chacun la voit de sa manière, mais on s'est retrouvé avec la démission du président algérien, Chadli Ben Jdid, de l'époque, et un vide institutionnel que les autorités ont décidé de remplacer par le rappel de son exil de Mohamed Boudiaf, qui vit au Maroc à l'époque, depuis les années 60, depuis son exil d'Algérie, et qui était une figure de la guerre de libération, une figure, on va dire, entre guillemets, vierge de tout exercice du pouvoir durant toutes les décennies de l'après-indépendance.
Qui a été donc président du Haut Comité d'État à partir du 16 janvier 92.
Exactement, c'était une instance qui a été créée pour remplacer le vide institutionnel de la présidence, parce que rien n'était prévu dans les textes en cas de démission du président, parce que apparemment le président, ou bien il meurt, ou bien il reste à vie dans le logiciel des constitutionnels algériens. Et donc, Mohamed Boudiaf était avec d'autres hauts responsables, dont on peut citer Ali Haroun, qui était ministre des Droits de l'Homme, ou bien Khaled Nazar, qui était ministre de la Défense jusqu'à avant 92, et qui formait tous les cinq, un groupe de cinq, le Haut Comité de l'État.
Son assassinat, le 29 juin 1992, a provoqué un choc, mais aussi un véritable bouleversement en Algérie.
Il y a deux temps dans cet assassinat, vous savez. Il y avait toute une opinion, même au-delà des islamistes qui se sont vus les perdants de cette période-là de 92, parce qu'ils ont perdu la victoire, entre guillemets, aux élections. Mais il y avait toute une opposition aussi qui se méfiait de Boudiaf, de cette figure qui n'était pas ici depuis des décennies, qui revient à la tête de l'État et qui appuie des militaires qui, eux, ont décidé de suspendre pour un certain temps un processus démocratique et électoral. Il y avait d'autres qui étaient plus ou moins enthousiastes par rapport à l'image de Boudiaf, qui parlait beaucoup de jeunesse, de lutte contre la corruption. Mais son assassinat, le 29 juin 92, a créé une telle onde de choc que tout le monde s'est dit « c'est une opportunité pour l'Algérie qui a été perdue, même parmi ses opposants de l'époque ». Ça a été un choc politique, ça a été un choc national. Moi, je l'ai vécu adolescent à l'époque, mais jusque dans les tréfonds de la société algérienne, cet assassinat qui était en plus filmé, il a été repassé au 20h même du lundi 29 juin 92 à la télé. Ça a été un traumatisme national très, très important.
C'est un espoir qui a été assassiné.
Le fait qu'il soit assassiné a donné l'idée que peut-être qu'il avait un projet trop audacieux dans le sens où sur l'ouverture sur la société civile, l'ouverture sur la jeunesse, la lutte contre la corruption, revoir certains grands principes de la diplomatie algérienne, notamment avec le Maroc. Donc, son assassinat plutôt a préfiguré le fait que son projet avait trop d'audace pour le système Et du coup, c'était un projet qui représentait beaucoup d'espoir pour l'État algérien et pour la société algérienne aussi.
Et cela a marqué le début de la décennie noire en Algérie, la décennie terroriste.
Psychologiquement, oui. Dans les faits, les attentats avaient commencé dès 1991 avec des attaques de casernes, des choses comme ça. L'année janvier-février 92, on a commencé les attentats urbains dans les grands centres urbains plutôt à Alger et ailleurs. Les assassinats d'intellectuels et tout avaient commencé déjà. Donc, ce n'est pas un assassinat qui a marqué le basculement dans la guerre civile, mais ça a été comme une sorte de... on avait acté la guerre civile. On avait acté qu'on allait rentrer dans une sorte de naufrage de sang qui allait nous frapper. Parce que voir que le président lui-même, avec toute sa protection, avec tout le dispositif sécurité autour de lui, est atteint dans sa chair, est assassiné, cela veut dire aussi que le pays tout entier sera otage de cette violence pendant très longtemps.
Que représente-t-il aujourd'hui pour la jeunesse algérienne, Mohamed Boudiaf ?
Une opportunité ratée, une figure paternelle qui subsiste chez beaucoup de jeunes aujourd'hui, même ceux qui n'ont pas connu, mais quelque chose qui donne en même temps de l'espoir et qui fait peur en même temps. C'est-à-dire, on s'est dit aussi que peut-être que... Peut-être que la violence ici est tellement politique et tellement forte qu'elle n'épargne personne, même pas le président de la République. C'est-à-dire que l'audace politique peut être fatale. Mais ça reste quand même une figure très très affective pour beaucoup de générations, même pour les jeunes. Une sorte de virage raté quelque part des années 90.
Et comment ce 30e anniversaire est-il commémoré en Algérie?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis une trentaine d'années, les commémorations se limitaient à la réunion de ses proches ou de citoyens ou de quelques ex-officiels autour de la tombe de Mohamed Bouzyaf dans un grand cimetière ici à l'est d'Alger. Les commémorations n'ont jamais dépassé cela. Les années faisant, on a commencé un peu à oublier cette histoire. Enfin, on parle plus de cet assassinat. Les médias publics commémoraient de moins en moins. C'est une manière aussi d'un mouvement général pour plier toute la page des années 90. Avec la concorde civile, les amnesties de Bouteflika, etc., imposées par l'armée Bouteflika. Aujourd'hui, je n'ai ressenti aucune initiative autour de cette commémoration. Je sais que sur les réseaux sociaux, ça va être très très fort, comme chaque année, que beaucoup de gens vont, par exemple, changer leur image de profil pour mettre celle de Boudiaf. Ils l'ont fait déjà il y a 2-3 ans. C'est une tradition un peu, des fois, sur les réseaux sociaux ici en Algérie, mais il n'y aura pas de commémoration officielle. On va plus parler de l'indépendance que de l'assassinat de 92.
Le journaliste et écrivain Adeline Mehdi, son dernier roman 1994 aux éditions Barzac et Rivage Noir. Le Premier ministre espagnol a promis une collaboration totale de son gouvernement avec les enquêtes sur la mort de 23 migrants africains, ces personnes qui tentaient vendredi de pénétrer dans l'enclave espagnole de Melilla à partir du territoire marocain. « Je déplore la perte en vies humaines », a déclaré le chef du gouvernement. Il a parallèlement mis de nouveau en avant le droit de Ceuta et Melilla, les deux enclaves espagnoles en territoire marocain, à des frontières sûres. Pedro Sanchez qui a accusé les mafias qui se livrent au trafic d'êtres humains. Un Palestinien a été tué à l'aube lors d'une opération de l'armée israélienne à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée. C'est ce qu'indique le ministère de la Santé palestinien. Il affirme que Mohamed Mari, âgé de 25 ans, a été tué d'une balle dans la poitrine par des soldats israéliens. Le Maroc lancera son service de visa en ligne dès le 10 juillet prochain. Objectif, faciliter aux étrangers étrangers soumis au visa, l'obtention rapide sous 24 heures ou 72 heures maximum du document de voyage pour le Maroc sans se déplacer au consulat du Royaume. Le traitement des demandes de visa se fera ainsi via une plateforme internet gérée par le ministère marocain des Affaires étrangères. Plus de 100 personnes, dont de nombreuses femmes, ont été tuées dans un camp du nord-est de la Syrie en l'espace d'un an et demi. Une annonce du coordinateur de l'ONU en Syrie. Il demande au pays de rapatrier leurs ressortissants, notamment ceux détenus dans le camp d'Al-Hol sous contrôle kurde. Après 10 mois d'audience, l'heure du verdict au procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, la Cour doit rendre ce soir sa décision sur le sort de Salah Abdeslam et de ses co-accusés jugés depuis septembre pour les pires attentats jamais commis en France. Les députés ont désigné leur présidente. Hier soir, Yael Braun-Pivet du groupe Ensemble devient ainsi la première femme présidente de l'Assemblée nationale. Elle succède à Richard Ferrand qui n'a pas été réélu au dernier élections législatives. Yael Braun-Pivet devient le quatrième personnage de l'État derrière le président de la République, le Premier ministre et le président du Sénat. Vive réaction à gauche après les propos du doyen des députés José González. Le parlementaire du Rassemblement national, interrogé après son allocution, a expliqué qu'il n'était pas là pour juger si l'OAS a commis des crimes. Cette organisation pro-Algérie française qui a organisé toute une série d'attentats entre 1961 et 1962. Le porte-parole du Parti communiste, Yann Brossa, estime selon ses mots que l'hommage à l'OAS d'un député RN fait tomber les masques et que l'extrême droite reste l'extrême droite. Ce sera après-demain vendredi. La chorégraphe Lamia Safieddine proposera une nouvelle édition d'Instant de Femmes. Cela se déroulera dans le très beau théâtre de Marly-le-Roi dans les Yvelines. Lamia Safieddine.
La première édition fut en 2015, c'était pour la journée de la femme, des femmes. Et j'ai conçu ce spectacle avec les filles de ma compagnie qui sont devenues très avancées, des femmes qui ont commencé il y a 25 ans avec moi ou plus, et qui, donc, maintenant, je leur donne l'espace à chacune de faire un solo ou deux de leur création. Et je leur offre toutes les possibilités techniques professionnelles, lumière, son, maquillage, comédienne professionnelle, pour sublimer leur solo et qu'elles se rendent compte, elles aussi, de l'importance de toutes ces personnes qui passent dans le générique très 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 vite et qui font qu'un comédien est aussi fort au cinéma. Voilà, c'est les gens de l'ombre, comme on dit, mais qui subliment le travail d'un artiste. Et par ailleurs, pourquoi un stand de femmes? Parce que justement, chacune présente un solo d'un moment qui est important pour elle en tant que femme, que jeune femme. Et c'est pour cela que le titre est venu ainsi. Et depuis, ça a tellement eu du succès c'est notre quatrième édition. On a dû reporter à cause du Covid. On est très content maintenant que ça se concrétise de nouveau.
Quelles seront les musiques qui seront proposées lors de cette quatrième édition des Instants de Femmes?
Comme j'ai proposé aux femmes, aux filles, d'être libres de leur choix et que je n'aime pas limiter notre travail est aussi interculturel. Donc il y a bien sûr Férouz, ça fait partie vraiment de la formation Mkaltoum. Mais après, leur choix, ça part sur Rodrigo Léon, sur Bachar Mahalife, et il y a aussi Barbara Pravi, Grand Corps Malade, Orange Blossom, c'est un groupe excellent palestinien qui fait de la musique interculturelle de très grande qualité, Raoul Ferrando, ainsi de suite. Donc, on a vraiment elles ont choisi de danser sur des chansons et qui leur parlent.
Alors c'est de la danse orientale, mais aussi de la danse arabe contemporaine. Vous pouvez nous parler des nuances?
Oui, elle est très grande chez moi. Au fait, orientale, souvent, c'est limité à un certain cliché, cabaret, égyptien, touristique de la danse. En réalité, c'est des danses d'Orient. Notre Orient est très large. Ça va de l'Orient au Maghreb, c'est des danses enracinées, donc et traditionnelles, jusqu'à la danse arabe contemporaine, c'est-à-dire on danse nos réalités contemporaines. Je suis une femme du 21e siècle et je danse mes réalités. Et les musiciens qu'on choisit, c'est des musiciens actuels, c'est pas de la musique traditionnelle. Donc c'est ça. C'est la différence, c'est qu'on n'est pas dans le ni folklore ni le tourisme. C'est dans des choses beaucoup plus ancrées dans le sol jusqu'à l'universalité de la musique, comme des musiques de Peter Gabriel, ou c'est inspiré des musiques du Maghreb, ainsi de suite. Ce que je propose en danse arabe est beaucoup plus authentique que, si je dis, ce côté touristique ou défiguré que je trouve. C'est-à-dire, en deux mots, c'est comme si en France, on réduit à la danse française avec toute sa richesse, toutes les traditions, toutes les danses traditionnelles de toutes les régions françaises et tout le danse d'opéra classique, contemporaine, au Moulin Rouge qui a été fait pour le tourisme étranger. Donc notre danse arabe et d'Orient est beaucoup plus large. Le côté cabaret que les gens connaissent correspond à même pas 1% de nos danses d'expression. Donc les gens qui ne connaissent pas et qui viennent à nos spectacles découvrent que c'est ça qui leur parle, c'est ça l'authenticité et c'est ça leur réalité. J'exprime quand je danse, ou une de mes filles de la compagnie de danse, par exemple, ma fille danse Ya Anna de Fayrouz, et ben, ça nous parle, et c'est notre réalité. Entre autres, elle va danser Li Beyrout, parce que ce spectacle, tous les bénéfices de ce spectacle vont à la solidarité pour le peuple libanais via le Secours populaire français. Ce spectacle a lieu dans un très beau théâtre à Marly-le-Roi. L'adresse exacte, c'est 44 Allée des Épines, 78 160 Marly-le-Roi. C'est un très très beau théâtre dans un très beau jardin.
La chorégraphe Lamia Safieddine, elle répondait à Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient à 12h30, votre journal en langue arabe. Il vous sera présenté par Roger Coury. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash. 17h30 pour votre journal en langue française. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera François Picmal, député de la NUP dans la 4e circonscription de la Haute-Garonne. Pluriel, une émission préparée et présentée par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. Il est 12h17.